Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Vous connaissez sans doute cette prière et la personne qui l'a prononcée, qui l'a faite dans l'évangile de Luc. Plusieurs événements entourent la naissance et les premiers jours de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut passer à ces événements intéressants qui sont les mages, les bergers, les anges, Joseph et Marie. Chacun d'eux révèle la grandeur et la beauté de cette naissance qui n'est pas une naissance ordinaire, une naissance comme toutes les autres, mais une naissance qui relève du miracle, une naissance surnaturelle, extraordinaire, car il s'agissait de l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Nous aussi, nous croyons à l'incarnation, celle de Dieu venu parmi les hommes, celle de Dieu qui se fait homme parmi les hommes. Et parmi ces événements, il y a celui-ci, donc de l'accueil que Siméon réserve à Jésus. Siméon est émerveillé, il est ému, il est comblé lorsqu'il prend Jésus dans ses bras. Il suffit de voir ce qu'il exprime à ce moment-là. Son témoignage, ses paroles, son message prophétique, sa joie, la paix, le bonheur qui le comble, qui inonde son cœur, pour comprendre qu'effectivement il vivait là un moment extraordinaire, un moment magnifique. Pourquoi est-il ému, émerveillé et comblé? La réponse, nous la trouvons dans ce beau tableau que Luc, l'évangéliste, nous présente dans Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Je vous invite à écouter. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. » Car mes yeux ont vu le salut que vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, Marie. » Cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Cette rencontre se passe dans le temple, au moment, dit Luc, où Joseph et Marie s'y trouvaient avec le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Autrement dit, il s'agissait de la présentation de Jésus au temple 8 jours après sa naissance, conformément à la loi de l'Ancien Testament. Alors que Marie, pour se conformer aux Écritures de l'Ancien Testament, parce que c'était des gens qui suivaient, qui se laissaient diriger par les Écritures, amène leur fils au temple. Ils y rencontrent cet homme, Siméon. Ce personnage, finalement, est un personnage sympathique, on le voit quand on lit ce texte. Cet homme qui leur fait un accueil chaleureux, extraordinaire, exceptionnel. Qui était-il? Qui était Siméon? C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lui. Certains ont supposé qu'il était fils d'un célèbre enseignant de Jérusalem, Hillel, homme distingué, président du Sanhédrin. Mais on n'est pas sûr, rien n'est certain. Par contre, selon la description de Luc dans ce passage, On peut affirmer que Siméon faisait partie de ce que les Écritures appellent le reste d'Israël. Le reste d'Israël. On sait la signification importante qu'a cette notion de reste dans l'Ancien Testament. Surtout lorsque les prophètes parlent du salut que Dieu prévoit pour tous les peuples, pour toute l'humanité. Pour saisir sa signification, il est bien sûr nécessaire de rappeler que Dieu a élu Israël comme son peuple. Dieu a choisi ce peuple, il a fait alliance avec lui pour lui confier une mission importante sur cette terre. Malheureusement, ce peuple a failli à sa mission. Il a failli à la mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Il a été désobéissant, il a été rebelle, il a été souvent incrédule. Ceci dit, malgré la désobéissance et l'incrédulité de son peuple, les récits bibliques nous disent qu'il y a toujours eu au sein du peuple d'Israël un petit groupe qui est toujours resté fidèle au Seigneur. Un petit groupe d'humbles israélites qui sont restés fidèles à Dieu, qui sont restés fidèles à ses promesses. C'est ce que les prophètes appellent le reste d'Israël. On lit par exemple dans le prophète Ésaïe, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. En parlant du retour de la captivité, Ésaïe, le prophète, a dit, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. On pourrait citer beaucoup d'autres textes qui parlent de ce reste. Ce reste a toujours existé depuis le début, depuis toujours. Déjà à l'époque Noé, n'est-ce pas? Noé et sa famille faisaient partie de ce reste. Ils peuvent être considérés comme ce reste qui a été sauvé des eaux du déluge alors que tous les autres vivaient dans l'incrédulité. Josué et Caleb ont été les seuls à rester fidèles à Dieu alors que les 10 autres espions, n'est-ce pas, sont restés dans leur incrédulité. Ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu. De même, à l'époque de Jésus, malgré l'incrédulité environnante, notamment des leaders religieux, il y a toujours eu des exceptions. On pourrait rappeler, citer quelques noms, Zacharie, Anne, Nathanaël, Nicodème, Joseph d'Arimathée, Siméon et d'autres encore, dont les noms apparaissent dans les Écritures. Des gens qui étaient prêts à accueillir le Messie promis par les prophètes, le Sauveur du monde. L'apôtre Paul fait clairement référence dans sa lettre aux Romains à ce reste, quand il dit que malgré la désobéissance d'Israël, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il dit ceci, « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. » Selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'était vrai à l'époque de l'apôtre Paul, c'est vrai encore de nos jours. Ce reste a toujours existé et il existe encore, même là où l'incrédulité et la persécution sont les plus fortes. Je pense par exemple à ce petit groupe de chrétiens dans la bande de Gaza, entouré des gens qui essayent de mettre la pratique de l'islam, n'est-ce pas, partout, ce reste est toujours là, fidèle au Seigneur. Même si nous connaissons peu de choses sur Siméon, même s'il ne fait pas partie, disons, des figures prédominantes, même s'il n'avait pas de titre, en tout cas, le texte ne donne aucun titre à Siméon, même si la Bible ne raconte presque rien sur sa vie, ce qui est sûr, c'est qu'il faisait partie de ce reste fidèle, ce reste d'Israël qui attendait la consolation d'Israël, la consolation et la délivrance d'Israël. Les versets 25 à 28 nous donnent des précieuses indications sur Siméon, des informations finalement qui nous permettent d'affirmer que Siméon était de ces personnes, on pourrait dire, qui attirent Dieu près d'eux. Oui, de ces personnes qui attirent Dieu près d'eux, de ces hommes dont la dévotion exerce une sorte de magnétisme sur le cœur de Dieu, de ses croyants qui connaissent le secret pour faire venir la direction divine, la direction divine. Dieu se sert souvent de ce genre de personnes, de ces gens, on pourrait dire, de second plan, des hommes et des femmes, finalement, de l'ombre, qui possèdent les caractéristiques qu'il recherche en chacun de nous. Des gens comme Marie et Joseph, des gens comme Siméon. Qu'avait-il de si spécial, ce Siméon ? Luc nous dit finalement des choses très intéressantes sur lui, et c'est là l'essentiel. Il nous dit qu'il était un homme droit, juste et pieux, c'est-à-dire un homme dont la dévotion vis-à-vis de Dieu était notoire de tous, car il manifestait dans sa vie la présence divine. Oui, Dieu se manifestait dans sa vie. Il laissait Dieu se manifester dans sa vie de chaque jour. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait aux yeux de Dieu, mais qu'il avait finalement l'attitude du cœur qui plaît à Dieu. Un homme donc qui pouvait être utilisé par le Seigneur, un homme qui pouvait recevoir une parole de la part de Dieu, un homme qui pouvait manifester Dieu dans sa vie, quelqu'un qui pouvait vraiment être utilisé par le Seigneur dans ce monde. Luc nous dit encore que c'était un homme rempli de foi et d'espérance, c'est-à-dire un homme qui croyait aux promesses de Dieu, car il attendait la consolation d'Israël. La consolation d'Israël. Ce mot si beau et si intime, emprunté donc aux promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, annoncé donc par les prophètes et sur lesquels reposait l'espérance de Siméon et de beaucoup d'autres. Nous le trouvons notamment dans les prophètes Jérémie et Ésaïe. Ces prophètes qui annoncent la délivrance d'Israël, la délivrance et la consolation du peuple de Dieu par la venue du Messie. Le Messie promis, le Sauveur. Cela veut dire que Siméon attendait vraiment la venue de ce Messie promis. Il attendait le Sauveur. Et c'est sur cette promesse que reposait son espérance et sa raison de vivre. Il avait confiance que Dieu allait accomplir sa promesse et il conformait sa vie de chaque jour et sa conduite à cette promesse divine. Vous savez qu'Israël vivait sous la domination d'une puissance, d'une autre puissance. Et Siméon regardait Israël à la lumière de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Siméon regardait Israël à la lumière de cette promesse que Dieu avait faite d'envoyer un Messie. Siméon caressait donc dans son cœur la consolation à venir. Il ne vivait pas pour ses intérêts à lui, ses intérêts personnels, mais pour le peuple, il pensait à son peuple et à cette espérance. Luc nous dit que la source de sa vie spirituelle était le Saint-Esprit, c'est clairement indiqué dans le passage, n'est-ce pas ? C'était un homme rempli du Saint-Esprit. C'est intéressant de voir qu'en deux phrases, le Saint-Esprit est mentionné trois fois par rapport à Siméon. Il y a donc une insistance sur le fait que Siméon était vraiment un croyant rempli du Saint-Esprit, avant même la Pentecôte. La Pentecôte n'avait pas encore eu lieu, n'est-ce pas ? Mais Siméon vivait déjà par l'Esprit. Il est dit que l'Esprit lui avait parlé, que l'Esprit reposait sur lui, que l'Esprit le poussa à aller au temple. Au beau moment, n'est-ce pas ? Siméon signifie celui qui entend. Celui qui entend. Et on peut dire que ses oreilles étaient vraiment ouvertes à la voix du Saint-Esprit, à ce que Dieu avait à lui dire. Et le Saint-Esprit lui a révélé des choses extraordinaires, des choses qui n'étaient pas connues de tous. Il a été averti qu'il verrait le Messie, le Sauveur, avant de mourir. Vous savez, je pense que Dieu communique souvent ses intentions d'une manière parfois mystérieuse, mais à ceux qui marchent dans la communion intime avec lui, à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui sont habitués à l'écouter, à écouter sa voix, à des gens finalement dévoués comme Siméon. Il est allé au temple, mais on peut dire qu'il était lui-même le temple du Saint-Esprit. Il est allé au temple construit par des hommes, le temple de Jérusalem, mais il était dans le vrai temple, celui de la présence divine, puisqu'il vivait avec Dieu dans sa vie. Luc nous montre aussi que c'était un homme reconnaissant. Lorsqu'il vit l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris Jésus dans ses bras et il a dit, après avoir béni le Seigneur, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » On peut imaginer la joie, l'émotion de cet homme à ce moment-là, n'est-ce pas ? Celle d'avoir Jésus dans ses bras. L'accomplissement de la promesse était là, devant lui. Si tous les Juifs attendaient la consolation d'Israël, la venue du Messie, Siméon l'attendait d'une manière toute particulière, car lui, il avait été averti. Il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il le verrait avant sa mort. Et au moment précis de la venue de Joseph et de Marie au temple pour la présentation de Jésus, c'est l'Esprit qui conduit Siméon à cet endroit-là, afin qu'il puisse voir de ses yeux l'accomplissement de la promesse. Ce moment tant attendu, ce moment historique est arrivé. Il tenait dans ses bras le Messie promis. Finalement, Luc nous dit peu de choses sur lui, mais il nous dit beaucoup aussi, n'est-ce pas ? Il nous dit l'essentiel sur Siméon. Pour résumer, on pourrait dire que c'était finalement un homme disponible pour le Seigneur, un homme docile, malléable dans les mains de Dieu, un homme à l'écoute du Saint-Esprit, un homme qui pouvait vraiment être utilisé par Dieu, car sa dévotion était grande, la dévotion dans son cœur. À partir du verset 29, Siméon élève un chant de reconnaissance, d'adoration et d'action de grâce. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Voilà, maintenant il pouvait partir en paix. Il pouvait mourir, s'en aller. Il sait que plus rien ne le retient sur cette terre. Il a vu l'essentiel, l'accomplissement de la promesse divine. Dieu ne l'avait pas déçu. Dieu a tenu sa promesse et Siméon est heureux, comblé et merveilleux, émerveillé. Il peut partir en paix. Ces paroles qu'il a prononcées en tenant Jésus dans ses bras et celles qui suivent, versets 34 et 35, constituent aussi un message prophétique qui s'est accompli dans la vie de Jésus-Christ et qui s'accomplit encore de nos jours. Il y a dans ce message un triple témoignage. Il y a d'abord un témoignage sur la mission de Jésus, ce que Jésus est venu accomplir dans ce monde. Il dit « Salut pour tous les peuples, lumière pour les nations ». Il est venu donc Jésus pour apporter le salut, un salut non seulement qui s'adresse au peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, mais un salut pour tous les hommes, pour nous, qu'on soit juifs ou dans notre peuple, ce salut est pour tous les hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà manifesté son désir de sauver non seulement le peuple d'Israël, mais tous les peuples de la terre. Par la bouche du prophète Ésaïe, il disait « Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. » Dans le Nouveau Testament, Jean nous rappelle que Dieu est venu pour le monde entier, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu sauver, mais il est venu aussi éclairer les nations. Il est venu éclairer les ténèbres de ce monde, les ténèbres de nos cœurs. Et je pense que les lumières qui brillent un peu partout, et notamment dans notre Église, les lumières de Noël, sont là pour nous rappeler que Jésus est la source de la lumière. Il est la véritable lumière, la lumière du monde. Le seul qui peut éclairer, car il est la source de la lumière. Là où Jésus est présent, les ténèbres se dissipent. Là où il est, il y a la vie, car la lumière est la vie des hommes, nous rappelle Jean aussi. On a aussi un témoignage sur la nation d'Israël dans le propos de Siméon. Il dit dans sa prière, « Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » La promesse concernait bien sûr d'abord le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, mais Siméon complète finalement ce message prophétique lorsqu'il ajoute au verset 34 et 35 « Cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. » En fait, Siméon est en train de nous dire que face à Jésus, à son message salut, il y aura des réponses variées, des réactions même contradictoires. Pour les uns, ce sera une occasion de chute, c'est-à-dire ils n'accepteront pas Jésus ni son message, son évangile, ils le rejetteront. Pour d'autres, ce sera une occasion de relèvement, c'est-à-dire qu'ils accepteront le Christ et son message. Et cela ne se passera pas uniquement au sein du peuple d'Israël, ces réactions, on les trouvera partout et au travers les siècles. La venue de Jésus apportera le salut pour les uns, mais le jugement aussi pour certains. Car les hommes seraient révélés tels qu'ils sont en réalité. Jean, au chapitre 3, verset 19, explique le pourquoi de ce jugement. Il dit ceci, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Dit-il, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quand nos œuvres sont mauvaises, quand on fait de mauvaises choses, on les cache, n'est-ce pas ? On ne veut pas qu'elles apparaissent à la lumière du jour. La lumière de Jésus sur la terre, a mis et met en évidence, n'est-ce pas ? Le péché des hommes, le péché de l'humanité, la réalité de nos cœurs, la réalité de nos péchés, et cela suscite bien sûr l'animosité vis-à-vis de l'Évangile. Enfin, dans les paroles prophétiques de Siméon, il y a aussi un témoignage pour Marie, la mère de Jésus. Quant à toi, Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée, dit-il. Tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Il fait bien sûr référence au sacrifice que Jésus allait accomplir sur la croix devant sa mère, n'est-ce pas, et devant les disciples et devant beaucoup d'autres. Une prophétie concernant la croix de Jésus-Christ. Il fallait que Marie sache que son Fils était venu dans ce monde pour accomplir une mission sur la croix. Il fallait qu'elle sache qu'il est venu pour mourir pour l'humanité perdue dans ses péchés. Il fallait qu'elle sache que le Christ, son Fils, qui est né d'elle, qui est sorti de ses entrailles, est venu payer le prix de nos péchés. Il était là pour ça. En fait, Siméon a vu l'essentiel. Il a vu l'essentiel et le témoignage qu'il a rendu à Jésus résume bien ce que nous voulons proclamer non seulement à chaque Noël, mais toujours, n'est-ce pas, la venue d'un sauveur dans la personne de Jésus-Christ. Sauveur pour tous les hommes, pour le peuple juif comme pour tous les peuples de la terre. Dieu est venu en Jésus-Christ apporter le salut. Il est venu apporter la lumière à ce monde. Alors puissions-nous tout simplement, comme Siméon, être nous aussi à l'écoute du Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit et avoir la dévotion que Dieu veut que nous ayons, afin que Dieu puisse nous utiliser nous aussi. Puissions-nous, comme lui, discerner la volonté divine et voir finalement ce que les autres, les incrédules, ne voient pas. Puissions-nous, à chaque Noël, nous aussi, être émus, émerveillés et comblés par ce message, cette bonne nouvelle qui nous vient du ciel. Et poussés par le Saint-Esprit, puissions-nous, nous aussi, proclamer cette bonne nouvelle, cet évangile qui est un évangile de consolation, de lumière, de délivrance, de salut, mais aussi de jugement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous propose de chanter ce chant qui nous rappelle quelle est la véritable lumière, la lumière du monde.